Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux L.
Bonjour à toutes et tous. Mais où va l'Algérie ? Pour répondre à cette question très vaste, il va falloir certainement remonter un petit peu plus loin dans son histoire. Mais son histoire, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui que l'Algérie doit se construire ou se reconstruire. Pour nous parler de ce livre, un spécialiste du monde arabo-musulman, un spécialiste que l'on a plaisir à écouter, à entendre, avec toujours une analyse très bien faite, très pointue et je dirais souvent très objective. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir M. Mohamed Sifaoui. Bonjour.
Bonjour, je vous remercie de votre invitation.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous, pour ces deux ailes, pour votre livre donc Où va l'Algérie et les conséquences pour la France aux éditions du Cerf. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes directeur du magazine Contre-terrorisme, vous êtes également spécialiste du monde arabo-musulman et également un grand spécialiste du terrorisme islamiste. Alors, ce livre est sorti il y a quelques jours. On a appris cette semaine que Abdelaziz Bouteflika avait démissionné. On a l'impression que l'Algérie peut espérer. En lisant votre livre, j'ai senti quand même des réticences, beaucoup de questions, une forme, pas d'amertume, mais un peu de crainte. Est-ce que cette jeunesse algérienne, parce que l'Algérie est très jeune, peut aujourd'hui construire son pays dans une vraie démocratie ?
En tout cas, ce qu'on a pu observer depuis le début de la mobilisation au mois de février dernier, c'est que la revendication démocratique est une revendication qui revient de façon récurrente, aussi bien sur les réseaux sociaux que lors des manifestations tenues chaque vendredi en Algérie depuis le 22 février dernier. Il y a par ailleurs des forces démocratiques qui étaient persécutées par le régime de Bouteflika, en tout cas qui étaient à tout le moins méprisées, ignorées, diabolisées, qui se sont mises, ces forces démocratiques, à être actives, à reprendre la parole progressivement et à exprimer évidemment les contours du projet de société auquel elles croient pour l'Algérie. Donc évidemment, enfin, tous les gens réalistes le savent, la démocratie ne s'instaure pas du jour au lendemain, elle ne se décrète pas non plus. Donc c'est une véritable construction. Cette société algérienne, et notamment la jeunesse, ont été travaillées par ce que j'appelle des virus qui ont été inoculés par le régime depuis l'indépendance. Ce sont des virus qui sont injectés à partir d'une pensée ultranationaliste parfois, d'autres fois une pensée islamiste. Donc si vous voulez, pour guérir une partie de la société qui a été infectée par ces idées qui sont contraires aux valeurs universelles, il faut à la fois du temps et il faut avoir véritablement le pouvoir. C'est-à-dire il faut reconstruire une école, il faut reconstruire une école qui est surtout un programme scolaire à même de former des citoyens modernes et aussi, ouvrir des espaces d'expression afin que toutes les opinions puissent sereinement s'exprimer et que les mosquées ne deviennent pas les comme c'est souvent le cas dans le monde arabe, des tribunes de contestation.
De contestation, voire pire. Alors, dans votre livre, vous reprenez, je dirais, la genèse de l'Algérie depuis son indépendance, depuis 1964, et on s'aperçoit déjà qu'il y avait de grandes tensions entre les premiers membres du FLN, du Fonds de Libération Nationale, et puis le président Ben Bella. Est-ce que à partir de ce moment-là, les jeux ont été faussés ? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, les protagonistes n'ont pas joué leur rôle ?
Écoutez, depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, très vite, la question du pouvoir est devenue centrale pour ceux qui étaient à l'époque les leaders du FLN. Et c'est en définitive le même clan qui a pris le pouvoir en 62, qui l'a gardé jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si Abdelaziz Bouteflika était ministre de la Jeunesse et des Sports dans le premier gouvernement algérien, avant de devenir une année plus tard ministre des Affaires étrangères. C'est le même Bouteflika qui était président jusqu'à il y a encore quelques jours. Donc, si vous voulez, ce clan, cette vision, comme je le disais, à la fois ultranationaliste, panarabiste, mais qui ne répond en vérité à aucun projet de société cohérent et même conforme au discours officiel, parce que on le voit bien, les dirigeants algériens ont toujours tenu un discours soi-disant nationaliste, mais ils se sont toujours projetés vers l'étranger. Ils ont toujours défendu l'arabisation de la société, alors que pour eux-mêmes et pour leurs enfants, ils ont toujours été sinon francophones, anglophones ou que sais-je encore. Ils ont toujours prôné l'islam comme source d'inspiration du droit, alors qu'ils vivent comme des libertins et comme des libertaires, s'arrogeant le droit, en tout cas, et c'est leur droit évidemment, de vivre bien en contradiction avec les dogmes qu'ils instauraient dans la société. Donc, si vous voulez, toutes ces contradictions font que le régime algérien a déstructuré la société, y compris au niveau de son identité. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens ne savent plus qui ils sont. Et c'est y compris ça qu'il faut reconstruire, c'est-à-dire une véritable identité algérienne qui soit intégrée dans son monde méditerranéen, ancrée dans son monde maghrébin et africain, mais très à l'aise avec, je dirais, son environnement. C'est, à mon sens, à partir de là qu'il faut reconstruire quelque chose de beaucoup plus simple, parce que la société algérienne, en définitive, n'a jamais été véritablement apaisée. Il y a eu, évidemment, 57 ans de dictature, mais avant, il y a eu un système colonial particulièrement injuste. Avant ça, il y a eu la période ottomane qui a méprisé les populations autochtones, l'invasion des Arabes qui a assujetti des populations berbères à des dogmes qui n'étaient pas initialement les leurs. Enfin voilà, je dirais, depuis maintenant des siècles, l'Algérie est un pays qui, en tout cas une société, notamment sa société, sa population, n'a pas pu vivre de façon totalement apaisée et n'a pas pu surtout prendre son destin en main. Il y a toujours eu une force exogène qui a fait main basse sur le pays et qui l'a empêché de s'épanouir, et plus récemment encore, surtout, de profiter des richesses du sous-sol. Je donne souvent cet exemple. Par exemple, les populations du sud algérien, là où il y a le gaz et le pétrole, c'est-à-dire ceux-là qui ont sous leurs pieds les richesses du pays, sont les régions les plus défavorisées et les plus délaissées, les plus abandonnées, les plus méprisées. Le peu qui se porte plus ou moins, ou plutôt bien, et au nord, et encore, c'est quelques milieux, je dirais, clientélisés par le régime. Donc, si vous voulez, il y a tout ça, avec l'économie, l'éducation, la bonne gouvernance, qu'il faudra reconstruire.
Oui. Et pourtant, c'est un pays magnifique que je connais, entre la petite et la grande Kabylie et toutes ces jolies villes. Cette identité, mais alors justement, cette identité, en vous écoutant, en lisant votre livre, au travers de son histoire, effectivement, il n'y a jamais une liberté de pensée, une identité propre. C'est toujours été au travers d'une dictature, d'une colonisation, de l'occupation. Donc aujourd'hui, il faut reconstruire cette identité dans un monde qui va très vite, en 2019. Alors, on a l'impression aussi que la jeunesse découvre en fait la politique au travers de cette nouvelle identité, la politique, l'économie, veulent prendre ça à bras le corps. Mais est-ce qu'ils en ont la possibilité, les moyens, dirais-je, intellectuels ?
Moi, je pense que, évidemment, chaque mouvement d'abord, chaque révolution, si c'en est une, et si c'est, elle aboutit vraiment à faire tomber le régime, génère ces nouveaux leaders, ça incontestablement. Ensuite, ce que j'avais commencé à expliquer, les démocrates et tous ceux qui se reconnaissent dans le courant démocratique ont été brimés pendant plusieurs années par le régime. D'abord par le régime de Bouteflika, mais avant, les 20 dernières années, il y a eu la période de l'islamisme, du terrorisme, il y a eu évidemment le parti unique, la dictature, etc. Donc ce sont des courants qui n'ont pas pu, jusque-là, à part durant quelques périodes très précises, s'exprimer de façon, je dirais, libre, totalement, comment dire, affranchie de la chape de plomb qui a toujours existé sur le pays. Enfin, les démocrates, encore une fois, existent. On les connaît. Oui. Les Algériens savent qui sont les militants qui ont défendu les principes démocratiques. Au niveau intellectuel, évidemment qu'il y a une élite qui est très bien formée, y compris dans l'administration, mais qui est reléguée, qui a longtemps été reléguée au second plan. Dans toutes les institutions du pays, il y a des gens qui sont à la fois compétents, formés, honnêtes. Honnêtes, je le souligne, parce honnête, que la question de l'honnêteté et de l'éthique, malheureusement, ont été bafouées par ce régime. Donc, il y a des forces et qui sont capables de prendre leur destin en main. Moi, j'ai entièrement confiance, notamment en la jeunesse algérienne. Oui. Après, il faut discipliner tout ça, bien sûr. C'est bien ce que je ne cesse de répéter. La démocratie, la bonne gouvernance ne s'instaure pas du jour au lendemain, ne se décrète pas. Mais je pense que, et ce peuple l'a démontré, personne ne s'attendait, et je dirais, pour être honnête, moi aussi j'ai été surpris et très agréablement surpris parce que je connais le caractère excessif des Algériens.
Et pourtant vous êtes, vous êtes un observateur averti pourtant.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un soulèvement d'abord aussi massif et que ce soulèvement aussi massif soit aussi formidable. Et soit aussi pacifique, aussi apaisé, aussi civique, aussi, je dirais, mature. Donc, si vous voulez, le peuple algérien, par son comportement depuis 6 semaines maintenant, a démontré, en fait, ce qu'il peut être quand il le veut. Même les villes sont nettoyées par la population aujourd'hui. Après chaque manifestation, ils descendent dans les rues pour nettoyer leur ville et leur quartier. Il y a une solidarité qui s'exprime, qui est extraordinaire. Il y a une unité nationale qui est retrouvée. Alors tout ça, évidemment, doit pas être idéalisé ou folklorisé, c'est-à-dire évidemment il reste des problèmes, il restera des problèmes. Il y a la réalité de l'islam politique, qui des islamistes sont encore là, ils sont effectivement aujourd'hui minoritaires ou mis en minorité parce que c'est la majorité qui était jusque-là silencieuse qui s'exprime désormais. Cette majorité jadis silencieuse, aujourd'hui bruyante et en tout cas pacifiquement bruyante.
Mais volontaire et passionné, très volontaire. Alors vous expliquez.
Celle-là est capable, encore une fois, de prendre son destin en main et de construire quelque chose de magnifique.
Alors vous expliquez dans votre livre aussi que malgré tout il y a des cerveaux, des élites qui ont quitté le pays ou qui tentent de le quitter ou qui voudraient le quitter. Est-ce que, au vu de ce qui peut se passer si le pays se reconstruit, est-ce que ces gens-là peuvent revenir pour aider justement à la construction, à la reconstruction de l'identité algérienne?
D'abord, ce que j'observe depuis quelque temps, c'est que l'immigration clandestine a brutalement cessé. C'est-à-dire que les jeunes Algériens ne cherchent pas à partir. Depuis maintenant le mois de février, on a des témoignages qui montrent que le phénomène dit des haragas, c'est-à-dire ces jeunes hommes, voire parfois des familles, qui prennent des chaloupes de fortune pour essayer d'atteindre les côtes espagnoles ou italiennes, ce phénomène s'est brutalement arrêté depuis le début de la mobilisation en Algérie. Quand on discute avec les Algériens, notamment les jeunes, on s'aperçoit qu'ils ont envie de rester chez eux. Et c'est un sentiment qui est totalement normal et humain, qui est largement partagé. Les gens, généralement, n'aiment pas partir de chez eux. Pour s'exiler, il faut avoir de très bonnes raisons, et je dirais des raisons souvent dramatiques poussent à l'exil. C'est soit des problèmes politiques,
la
des
guerre,
problèmes de mauvaise gouvernance, ouais. des guerres ou encore des problèmes économiques, voire plus récemment des dérèglements climatiques importants qui font que les gens sont obligés d'aller
de partir,
se mettre à l'abri ailleurs ou d'aller chercher subsistance, si vous permettez l'expression.
Sûr.
Donc, le phénomène aujourd'hui qui est en train de s'observer, c'est aussi l'intérêt que portent beaucoup d'Algériens de l'étranger à leur pays d'origine. Et j'entends énormément de personnes formées, diplômées, surdiplômées, etc., jurer et promettre qu'ils iraient participer d'une manière ou d'une autre à la reconstruction de leur pays dès le moment où la démocratie serait une réalité. Parce que, jusque-là, il y avait une politique, hein, il ne faut pas croire que c'était le fait du hasard, il y avait une politique de faire partir les élites, parce que les élites, tout ce qui réfléchit serait capable d'apporter la contradiction à un régime autoritaire.
C'est dangereux.
Donc il y a une volonté.
C'est dangereux, bien sûr.
Les élites sont effectivement extrêmement dangereuses pour des régimes comme ceux-là.
Bien sûr.
Donc voilà, il y avait ces départs importants. Il y a, je crois, 5 à 6 millions d'Algériens qui sont à l'étranger aujourd'hui, dans quasiment tous les pays du monde et dans tous les continents. Il y a des Algériens qui sont partis pour soit parce qu'ils n'arrivaient plus ou ils n'arrivaient pas à vivre décemment et sereinement dans leur pays, soit parce qu'ils étaient persécutés. Oui. Personnellement, cela fait 20 ans que je ne peux plus rentrer en Algérie. Oui. Je suis interdit quasiment de manière indirecte de séjour de ce pays, dans mon pays
dans
d'origine.
Dans votre pays d'origine.
On m'empêche y compris d'avoir un passeport.
Donc,
si vous voulez, et en plus, on m'a condamné pour mes écrits.
Oui.
Donc, on m'a poursuivi pour mes livres. Par conséquent, ils créent à chaque fois les conditions, et je ne suis pas le seul dans cette situation, ils ont créé les conditions de laisser au plus loin les personnes qui seraient capables de leur apporter la contradiction, y compris de la manière la plus civilisée qui soit. Je ne pense pas être un quelconque danger pour l'Algérie.
Ce n'est pas l'impression que vous donnez, Monsieur Sifaoui, ce n'est pas l'impression
voilà,
que vous donnez.
Voilà, normalement, je ne pense pas être très dangereux, sinon... d'exprimer un point de vue. Qui est nourri par
qui est dérangeant pour le système, pour ce clan.
Oui, qui est dérangeant pour tous ceux qui n'aiment pas la démocratie, les droits de l'homme, qui n'aiment pas la liberté, pour tous ceux qui n'aiment pas l'égalité, tous ceux qui n'aiment pas l'éthique sont dérangés par mon propos, je peux évidemment le constater.
Oui. Alors, j'espère que ce qui ne va pas déranger nos auditrices et auditeurs, eh bien, c'est cette pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Mohamed Sifaoui pour son livre Mais où va l'Algérie aux éditions du Cerf. Alors, le titre de votre livre, c'est Où va l'Algérie et les conséquences pour la France. Parce que moi, j'ai envie de dire que nous sommes intimement liés. Notre histoire, aussi lourde soit-elle, aussi belle aussi, peut-être soit-elle aussi, parce qu'il y a aussi une forme de fraternité. Mais on sent une forme d'inquiétude quand même quand vous dites où va l'Algérie et les conséquences pour la France. Quelle est votre analyse à ce sujet?
Alors, où va l'Algérie d'abord Le questionnement, c'est d'exprimer une inquiétude,
une inquiétude, bien sûr,
qui est évidemment partagée, largement partagée, pour à la fois ceux qui tiennent à ce pays, qui aiment ce pays, et ceux qui ont un intérêt à ce que ce pays reste stable de manière très pragmatique. Tous les pays européens du Sud, notamment, ont intérêt à avoir une Algérie stable. Et même prospère. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a une chose que toutes les démocraties doivent comprendre. Les responsables qui gèrent les grandes démocraties ne peuvent plus à la fois soutenir des dictateurs et des autocrates et estimer que leur population doit les subir éternellement, ne pas viser à immigrer dans des pays plus stables, et en même temps ne pas se radicaliser et laisser juste le business et les affaires se réaliser tranquillement.
Et la corruption. Et la corruption.
Et laisser le permettre à la corruption endémique, à laquelle d'ailleurs participent certaines entreprises européennes, américaines, et j'en passe, parce que quand il y a des corrompus, il y a toujours des corrupteurs, et inversement. Et on sait que, par exemple, beaucoup de responsables algériens ont touché des commissions de grandes entreprises occidentales. Donc, si vous voulez, on ne peut pas entretenir ce climat, on ne peut pas entretenir ce climat détestable dans les pays du Sud et dire attention, on ne veut plus, parce qu'on ne peut plus accueillir d'immigrés, il faut que leur population les subisse. Ce n'est plus tenable, cette façon de voir les choses. D'autre part, un pays comme l'Algérie est un pays très, très riche, est un pays qui a des liens avec la France, au-delà des liens historiques, des liens économiques extrêmement forts. 10 milliards d'euros d'échanges par an, chiffre de 2015, je crois.
Oui.
Deuxième client, l'Algérie, deuxième client de la France, hors OCDE, avec plus de 6 milliards d'euros par an. 500 entreprises françaises sont présentes en Algérie, ce qui correspond à 45 000 emplois directs de Français, à 150 000 emplois indirects. Donc, au-delà des aspects économiques, il y a aussi les échanges sécuritaires, la coopération sécuritaire importante.
Oui.
L'Algérie est un pays qui a une frontière avec la Libye déstabilisée, qui a une frontière avec la Tunisie convalescente, qui a une frontière avec le Sahel, où la France est encore dans l'intervention Barkhane,
qui est
une intervention importante pour la sécurité des Français et la sécurité de l'Europe. Donc, en plus de ça, l'Algérie, avec le Maroc, sont des pays qui tentent de lutter contre l'immigration, les réseaux d'immigration clandestine, contre les réseaux qui utilisent ou qui profitent de ces situations. Donc, une déstabilisation de l'Algérie, si vous voulez, ne servirait les intérêts de personne, à commencer par les intérêts des Algériens et accessoirement par les intérêts de leurs voisins immédiats et de leurs partenaires historiques, donc dont la France. Et sans oublier qu'il y a près de 1,5 million de binationaux, qu'il y a énormément de mariages mixtes, qu'il y a des relations historiques, comme je l'ai précisé, des relations affectives avec ce pays.
Il y a des liens qui
n'ont pas été, je dirais, brisés, heureusement, avec l'indépendance. Il y a des Français, des Algériens, des Français et des Algériennes, des Algériens et des Françaises qui ont fait des enfants.
Il y a
tout ça et cette histoire. Parfois, il y a des courants extrémistes, xénophobes ou racistes qui, malheureusement, pour eux, ils pensent que l'identité est un système figé et que les mélanges est une chose qui serait effroyable. Mais non, il y a aussi un grand métissage qui est fait entre Algériens et Français. Donc, si vous voulez, des liens culturels, la langue qui est parlée par beaucoup, beaucoup d'Algériens et qui est aimée par beaucoup d'Algériens. Donc, si vous voulez, tout ça fait que on ne peut pas, quand on est en France, quand on est français,
rester indifférent,
indifférent de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée et particulièrement en Algérie.
Oui. Alors pour conclure, parce que j'aurais bien voulu vous garder des heures, mais voilà, il va falloir. L'avenir proche là, pour l'Algérie. Donc, Bouteflika a démissionné. On peut espérer qu'il y aura des élections démocratiques. Le clan Bouteflika va certainement s'arc-bouter, s'accrocher à ce pouvoir. Comment voyez-vous les choses pour les mois à venir?
Alors, moi, je pense, le constat que je fais, c'est que pour l'instant et depuis le début, la mobilisation arrive, semaine après semaine, à grignoter beaucoup de choses, des acquis considérables. Personne ne pensait qu'il y a quelques mois que Bouteflika pouvait, comme ça, partir de son plein gré. Donc, ça veut dire que la mobilisation, cette population dans la rue, peut obtenir des résultats. Je crois que la mobilisation doit se poursuivre. Parce que, de toute façon, nous avons aujourd'hui deux obstinations qui se font face. Nous avons les caciques d'un régime qui ne veulent pas lâcher.
Bien sûr.
Et nous avons, d'un autre côté, l'obstination d'une population qui veut un changement démocratique. En espérant que ces deux obstinations ne se télescopent pas et ne crée pas, et surtout du côté de l'armée, du côté des quand je parle de l'armée, je parle notamment du chef d'état-major de l'armée, n'aille pas vers la violence, parce que ce sont des gens qui sont capables d'utiliser y compris les moyens les plus condamnables pour demeurer au pouvoir. J'espère que la mobilisation va se poursuivre.
Calmement, toujours aussi pacifiquement, il faut le préciser.
Ah bah oui, bien sûr, il faut le souligner, vous avez raison. Je suis un partisan je ne suis partisan d'aucune déstabilisation, ni armée, ni violente, parce que
on ne construit rien dans la violence. Voilà, on ne construit rien dans la violence.
Non, mais de toute façon, les Algériens savent aujourd'hui, et ils ont le temps pour eux, que la mobilisation calme, pacifique, est celle qui met mal à l'aise le régime. Donc il faut continuer comme ça. Et en plus de ça, le nombre, quand vous mettez 20 millions de personnes dans la rue, aucun régime ne peut tenir face à 20 millions de personnes dans la rue. C'est pas possible. Donc il y a 20 millions de personnes, 25 millions, je peux vous assurer qu'il y a plus de 30 millions d'Algériens qui veulent que ce régime dégage, comme ils disent. Et ils vont le faire dégager, j'en suis convaincu. Maintenant, les Algériens ont exprimé ce qu'ils ne veulent pas. Il faudrait qu'ils commencent de façon totalement apaisée à exprimer ce qu'ils veulent, qu'ils veulent comme projet de société.
Quelle direction
prendre ? Encore une fois, ce que j'ai entendu dans les manifestations, ce que j'ai entendu, comme ce que j'ai vu comme slogan à travers les images qui sont parvenues, c'est une revendication démocratique qui est très forte, très très puissante. Il faut maintenant la décliner en proposition politique et en projet de société, cette revendication démocratique. Parce que pour que les choses soient claires et que les gens le comprennent, la revendication démocratique implique évidemment une sécularisation de la société, implique une égalité entre les femmes et les hommes, implique le droit des minorités, implique le débat calme et serein, implique la condamnation de la violence sous toutes ses formes, implique l'édification d'un état de droit et donc d'une justice indépendante. Voilà, la démocratie, ce n'est pas uniquement un slogan. Et ça, il faut faire de la pédagogie parce que, évidemment, la culture démocratique, et même si beaucoup d'Algériens sont démocrates, elle ne traverse pas, je dirais, l'ensemble du pays parce que tout simplement, le régime a tout fait pour que...
Scléroser cet état de fait, tout à fait.
Absolument. Alors, beaucoup d'Algériens sont, comme je le dis, démocrates de façon empirique. Ça veut dire ils comprennent que la démocratie est une valeur qui est bonne parce qu'ils voient par ailleurs que le monde où s'exprime la démocratie, le monde est apaisé. Ils veulent quelque part quelque chose qui ressemble à ça. J'espère qu'ils arriveront à la construire grâce à leur élite démocratique qui est encore une fois déterminée, résolument engagée et convaincue qu'il faille poursuivre cette mobilisation et déraciner le régime, éradiquer ses pratiques, notamment la corruption.
La corruption. Et puis, essayer de penser que l'on pourra leur transmettre la liberté, l'égalité et la fraternité aussi. Pourquoi pas?
Exactement. Oui, mais ce sont de toute façon des valeurs, vous savez, qui ont été toujours présentes dans la société algérienne.
Oui.
On l'a vu à plusieurs reprises. À chaque fois que la société a été confrontée à des moments difficiles, ce sont des valeurs qui ont ressurgi et
oui.
qui ont été utilisées
oui.
pour justement permettre à la société de se tirer d'affaire quand
d'affaires.
La situation était difficile. Je pense notamment durant les années 90, quand un terrorisme particulièrement
abject oui.
avait massacré les populations et la société algérienne a su justement se reposer sur ces valeurs ancestrales pour dont la fraternité dont l'attachement à une sorte de liberté, sa fierté légendaire pour sortir de ce
marasme
situation.
Oui.
Voilà.
Où va l'Algérie aux éditions du Cerf avec deux et avec monsieur Mohamed Sifaoui. Je vous remercie infiniment. C'était un vrai honneur de vous recevoir.
Je vous l'ai dit. Je vous remercie de votre invitation.
Dès que je peux, je vous écoute. Et puis l'Algérie me tient à cœur parce que dans ma famille, eh bien, j'ai un mariage mixte. Voilà, avec.
voilà.
Voilà, pour s'en raconter ma vie, la sœur de ma maman a épousé il y a plus de 50 ans un Algérien, Kabyle. Et voilà, ce mariage mixte a donné 3 enfants qui ont tous réussi et ils retournent régulièrement dans leur pays d'origine. Moi-même, j'y suis allée il y a 30 ans dans cette belle Kabylie.
C'est formidable.
Voilà. Je vous remercie infiniment. Où va l'Algérie aux éditions du Cerf avec Mohamed Boussaï. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quels sont vos projets d'écriture, mais sachez que ce micro vous sera toujours ouvert, monsieur Sifaoui.
Merci beaucoup. C'est gentil à vous.
Merci. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.